Tout pour investir, la place de l'IMO.
Avec, comme tous les jours, Marie Cœur de Roy, spécialiste immobilier chez BFM Business. Bonjour Marie.
Bonjour Stéphane.
Jérôme Robin nous a rejoint en plateau, fondateur de Nous Assurons. Bonjour Jérôme.
Bonjour Stéphane.
C'est un réseau de 110 courtiers en assurance. Vous allez nous expliquer l'importance de la clause bénéficiaire. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la loi Lemoine. Elle a été votée il y a un peu plus de 2 ans. C'est la loi qui permet de résilier l'assurance emprunteur à tout moment et pas uniquement à la date anniversaire. L'objectif, c'était de faire baisser les prix, de fluidifier le marché. Est-ce que les promesses ont été tenues?
Oui, en partie. Là, maintenant, c'est vrai que les banques ont tendance à lâcher un peu plus facilement, mais ça, c'est principalement dû à l'organisation des courtiers quant à la mise en œuvre de ces résiliations. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les banquiers continuent à vendre quand même leurs assurances de prêt en grande quantité, alors que leurs prix ne sont pas compétitifs, en disant à leurs clients, faites comme ça, c'est plus simple. De toute façon, après, vous pouvez toujours résilier. Et ils parient sur le fait que les clients vont pas forcément être organisés pour résilier ensuite.
Mais il y avait toujours une espèce de chantage dissimulé des banques qui laissent entendre qu'on aura de meilleures conditions sur un prêt si on souscrit également l'assurance emprunteur auprès de son banquier.
C'est toujours le cas. La réalité, c'est pas vraiment un chantage, c'est une réalité.
Donc c'est pas un chantage.
Si, c'est un chantage sur la table.
Oui, c'est un deal. Et voire même, en fait, dans des périodes plus difficiles comme on vient de traverser ou qu'on traverse encore probablement, je suis un peu éloigné du crédit maintenant, mais je pense que là, il y a quand même un vrai enjeu sur l'obtention même du prêt.
Oui, il y en a certains. Il y en a certains en assurance qui nous disent carrément qu'on est là en train de vous dire si tu passes pas par l'assurance maison, ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 semaines pour qu'on valide ton crédit, alors que si tu prends l'assurance maison, là, tu l'as tout de suite ton crédit.
À titre personnel, je l'ai connu. On m'a dit voilà. Tu auras de meilleures conditions si tu souscris également l'assurance emprunteur, quitte à en changer par la suite.
Mais les banques jouent toujours effectivement un jeu un peu dangereux parce que on le sait, la principale marge qu'elles font sur le crédit immobilier, c'est sur l'assurance de prêt.
Alors plus aujourd'hui, c'est pas vrai.
C'est vrai que les taux ont augmenté, c'est vrai Jérôme.
D'ailleurs, je vous invite, si vous avez confiance dans votre capacité à votre banque à vous faire gagner de l'argent, à acheter leurs actions.
un dernier mot avant de parler de la clause bénéficiaire, parce que Marie y tient beaucoup à cette clause bénéficiaire. C'est un marché qui est dominé par les banques, vous venez de le dire. Est-ce que les courtiers ont gagné des parts de marché sur l'assurance emprunteur depuis justement la loi Lemoine?
Alors oui, mais en fait, on grignote petit à petit. C'est vrai
que ça n'a pas été une révolution.
Ça n'a pas été une révolution majeure. Il y a des entreprises qui sont spécialisées et qui nous aident vraiment, nous courtiers, à pouvoir résilier et reprendre ces dossiers-là. Mais ça nécessite une infrastructure d'organisation importante. Les deux gros acteurs avec lesquels on travaille beaucoup, c'est Magnolia et Digital Insure.
Marie, la clause bénéficiaire.
Non, mais moi je me retourne vers Jérôme. C'est lui qui voulait nous parler de la clause bénéficiaire.
Oui.
En fait, ce qui est intéressant à avoir des spécialistes de cette assurance, c'est quand même de rentrer dans le détail des petites lignes qu'on ne lit jamais et sur lesquelles on se fait souvent avoir. Alors d'abord, de quoi parle-t-on précisément quand on parle de clause bénéficiaire?
Alors, c'est celui qui va recevoir l'indemnité en cas de décès, souvent. Un décès ou invalidité. Et en l'occurrence, on s'aperçoit que 98% des clauses bénéficiaires sont libellées au profit de...
La banque.
What?
Et pourquoi? Alors, déjà, parce que ça les rassure. Parce que si demain, vous êtes en incapacité...
Attendez. Si moi, j'ai une assurance emprunteur, si je décède, c'est ma banque qui va avoir le bénéfice de cette assurance?
Absolument. Au motif de solder votre crédit.
Alors, l'émission termine à midi 5, j'appelle mon banquier.
Alors, ça ne sera pas vos ayants droit, ça ne sera pas vos héritiers. C'est une option, en fait, puisque une clause bénéficiaire, comme c'est un contrat d'assurance qui est séparé du crédit immobilier, et que normalement, ça devrait être dissocié, mais tout a été fait pour que ce soit tout ensemble. Alors, ce qui intéresse la banque, c'est, un, de vous vendre l'assurance, deux, bien sûr, d'en être le bénéficiaire. En l'occurrence... Là où je voulais insister, moi, c'est sur les sociétés civiles immobilières ou les sociétés de famille ou les SARL. Les clauses bénéficiaires, elles ont une importance capitale. Parce qu'en fonction de la situation des gens, et on va prendre un exemple, par exemple, d'un couple non marié, non paxé, ça peut arriver, qui a la volonté quand même d'acheter un logement commun parce qu'ils vivent ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en cas de décès? En cas de décès, la banque va être bénéficiaire et la personne qui va être co-emprunteur, en fait, elle va pas toucher d'argent. Elle va avoir la dette qui va être diminuée de moitié. Mais en fait, l'actif de la personne avec qui elle partage la société, lui, va avoir une valeur différente. puisque une partie, enfin la dette qui correspondra à la quote-part de l'emprunteur décédé, elle sera éteinte. Du coup, les héritiers, eux, auront un droit sur cette...
Il va falloir nous donner un exemple concret, Jérôme. C'est qu'en gros, malgré tout, ça veut dire quand même que moi, si je reste seul emprunteur et que j'ai plus mon conjoint dedans, je n'hérite pas de ces dettes.
Bah non, puisque elle est soldée.
Elles sont effacées grâce à cette clause.
Par contre, comme ça devient un actif, puisqu'il n'y a plus la dette, les héritiers, les ayants droit, ils peuvent vous demander sa part. Enfin, la part de la valeur de l'actif.
Elle ne me reviendra pas à moi.
Bah, si vous n'êtes pas marié, pas paxé, non.
D'accord.
Sauf s'il y a un testament, et dans ce cas-là, il y aura 60% de droit. Quand il n'y a pas de mariage, pas de pax.
Bien tenté, hein. Marié, marié.
Mais c'est pour ça que moi, je suis un fervent promoteur du PACS, même pour les gens qui ne veulent pas s'engager dans le mariage.
Bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que les banques ne jouent pas le jeu ?
Non, ça veut dire que les banques vendent leurs produits d'assurance et se sécurisent au mépris ou à la méconnaissance des conséquences éventuelles d'une situation donnée d'emprunteur. En l'occurrence, si vous prenez l'exemple de ce couple-là, ce serait judicieux en fait, qu'il y ait une assurance d'essai croisée, c'est-à-dire une assurance non pas au bénéfice de la banque, mais au bénéfice du conjoint survivant ou du co-emprunteur, ça peut être deux sœurs, hein, du co-emprunteur survivant, pour que à ce moment-là, la personne touche en hors droit de succession une indemnité et puisse décider ou pas
si elle
de
veut
rembourser
solder une partie du crédit.
Une partie ou totalité du crédit.
Moi, ce que je ne comprends pas, Jérôme, c'est quel est l'intérêt pour l'emprunteur, du coup, de ce que vous nous dites, de prendre cette clause, en fait. Je ne comprends pas.
À aucun.
Ah, d'accord.
Ah non, mais franchement,
mais elle est très répandue, du coup ?
Elle est répandue, oui. Elle est très pratiquée, surtout. Mais simplement parce que ça fait partie du cadre obligatoire.
Ça veut dire que c'est des choses que je ne vais pas regarder. Mais alors, obligatoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai pas
alors,
le choix ?
Je peux vous donner un exemple personnel. J'ai acheté, via une société, un bien qui est à destination professionnelle, puisque c'est une location professionnelle meublée.
D'accord.
Donc, je loue, et le banquier dit, je veux une assurance, bien sûr. Et moi, je lui dis, d'accord, mais moi, le bénéficiaire de l'assurance, ça ne sera pas vous. Ce sera ma femme. Parce que si je décède, je veux qu'elle puisse avoir la latitude de vous rembourser ou pas.
Ouais.
Et il me dit, ouais, mais ça ne m'arrange pas. Je lui dis, oui, mais je vous invite à consulter votre service juridique parce que si vous mettez la société comme bénéficiaire, vous allez toucher une indemnité, mettons, d'un million d'euros. Et sur ces 1 million d'euros, on va avoir les impôts qui vont venir me voir, parce que comme c'est une société,
ouais,
je vais devoir payer 25% d'impôts sur le produit exceptionnel que la société va enregistrer. Donc la banque aurait encaissé ces 1 million, soldé sa dette, et derrière, les gens qui héritent se retrouvent avec une dette fiscale de 250 000 euros. Donc je lui dis, là, vous seriez en défaut de conseil si vous obstiniez à aller dans ce sens-là.
Mais là, c'est dans le cas d'une société, si on est co-emprunteur avec son conjoint.
Mais ça dépend du régime fiscal que vous choisissez. Si vous choisissez l'impôt sur le revenu, dans ce cas-là, on est sur la règle des particuliers. Mais si vous choisissez l'impôt sur les sociétés, ce qui est une option, et là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des conseils autour de soi, et pas seulement dire c'est facile de monter une SCI. Il y a des cas de figure dans lesquels c'est mieux d'être en société à l'IR, d'autres dans lesquels c'est mieux d'être à l'IS.
Ouais.
J'ai l'impression que vous êtes quand même un pro du secteur. C'est quoi votre conseil ? Il faut forcément que l'assurance soit au bénéfice croisé des deux emprunteurs ?
Je pense qu'il peut y avoir une partie qui est au bénéfice de la banque, mais il faut qu'il y ait une autre partie qui soit au bénéfice...
On peut panacher ?
Ah ben on fait ce qu'on veut. C'est une assurance qui n'est pas obligatoire.
Mais vous m'avez dit qu'elle était obligatoire, cette assurance.
Non,
vous m'avez
elle
perdu,
est conditionnelle. Elle est conditionnelle, c'est pas la même chose. Légalement, la banque n'est pas obligée de vous prêter avec une assurance.
Et je fais quoi si j'ai signé ?
Attendez, c'est une nouveauté pour moi. Demain, je peux emprunter...
Ah ben non, c'est une croyance, c'est pas la même chose.
Je peux emprunter en refusant l'assurance emprunteur.
Oui.
Mais il n'y a aucune banque qui va accepter de me prêter.
Ah ça, c'est un autre problème.
Donc elle est obligatoire, de fait.
Non,
elle
n'est
pas
contrainte.
Obligatoire dans les textes, mais les banques ne prêtent pas s'il n'y a pas d'assurance.
C'est pas vrai, il y a quelques banques qui prêtent sans assurance.
Oui, si tu peux hypothéquer.
Si on a une garantie hypothécaire ou si on a d'autres contreparties. Et ça peut être le cas.
Non, mais juste pour revenir sur cette assurance, parce qu'effectivement, dans les faits, en l'occurrence, on sait très bien qu'on a peu le choix si on veut avoir notre crédit immobilier, peu importe qu'on soit en SCI ou pas.
Mais... En fait, il faut arrêter de considérer que l'assurance emprunteur, c'est une contrainte, c'est une vraie garantie, et il faut que la garantie, elle soit ciblée en fonction de la situation de la personne.
Non, mais c'est ça, en fait. C'est là où j'ai envie de vous dire comment ça se passe. Qu'on a démarré cette interview, Stéphane, vous parlez de la fameuse loi Lemoine, de l'attitude des banques sur les résiliations à tout moment, etc. Mmh. C'est pareil, j'ai envie de vous dire, dans ce cas précis dont vous nous parlez, qui est très spécifique, je sais que dans ces cas-là, on est souvent très gentil avec sa banque et on est prêt à signer les yeux fermés de n'importe quoi. Mmh. Admettons que j'ai signé mon assurance emprunteur, j'ai acheté un SCI, j'ai signé cette clause bénéficiaire toute pourrie. Et comment je fais pour me dépatouiller avec ça? Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière, de modifier les termes du contrat?
Alors, souvent non. Ça va être compliqué, puisque vous avez accepté. Donc, vous pouvez la substituer. Et surtout, si vous sentez, si vous décelez à ce moment-là, en regardant les éléments de votre composition familiale ou de votre composition d'entreprise...
Et le statut juridique de l'entreprise, je peux le modifier, surtout.
Vous pouvez, non. Mais c'est toujours compliqué parce que là, du coup, vous changez le statut de l'emprunteur.
Ouais, d'accord.
Donc, la banque a son mot à dire. Non, la solution, elle est plutôt vers une adaptation en disant « je vais renégocier mon contrat d'assurance de prêt, je donne la garantie identique à celle que la banque avait et si j'ai besoin d'un complément, je le fais à côté, au bénéfice d'un tiers, au bénéfice d'un...
» J'ajoute finalement, voilà, j'ajoute je ne retire chose. Pas,
mais ça ne coûte pas cher. C'est-à-dire qu'en fait, le problème n'est pas savoir si ça coûte cher ou pas cher, le problème est de savoir si on est bien assuré ou pas. Ça ne sert à rien de souscrire une assurance pour dire d'avoir un papier, ça sert d'être assuré pour que ça remplisse une fonction.
Et donc, ce que vous nous dites, en fait, Jérôme, c'est qu'en amont, avant de signer une assurance et de s'emballer auprès de le banquier, quand on essaie de négocier déjà
le crédit,
c'est ça. Et puis, surtout, de lire les petites lignes, en fait.
Par exemple, dans une entreprise, si vous avez des associés qui achètent une boîte ensemble, ils sont à 50-50, il faut absolument qu'il y ait un pacte d'actionnaires à côté qui soit fait et qui dise, en cas de décès de l'un ou de l'autre, le survivant s'engage à racheter les parts de l'autre avec... telle méthode de valorisation. Il faut même prévoir la méthode de valorisation.
Sinon, on se retrouve avec la banque au capital.
Pas forcément la banque, mais les héritiers. Les héritiers, ils peuvent contester la valeur. Et du coup, il faut donner les moyens économiques, par le biais de l'assurance, que l'autre associé, à ce moment-là, puisse percevoir une indemnité qui va lui permettre de racheter les parts.
Quand je vous écoute, Jérôme, alors c'est parce que moi, je suis très novice, et puis c'est quand même des sujets très spécifiques sur l'assurance. Est-ce que ça concerne beaucoup de gens, en fait?
Ça concerne... franchement, 75% des emprunteurs. Souvent, ils ne se rendent pas compte. Parce que solder le prêt de la maison, ce n'est pas forcément le besoin premier.
C'est d'avoir l'argent peut-être, pour le solder.
Il faudrait peut-être que simplement 50% soit soldé. Parce que ça conforte uniquement la banque. Ça ne va pas répondre aux problématiques de celui qui est survivant à ce moment-là. Si vous avez une indemnité, vous avez la capacité à honorer les échéances qui arrivent et le choix de faire ce que vous voulez. Parce que la situation, elle change. Vous avez un décès, est-ce que vous voulez rester vivre dans cette maison? Peut-être, peut-être pas.
Ouais, bien sûr. Et on ne se retrouve pas pieds et poings liés. Vous avez le sentiment, justement, sur cette fameuse clause bénéficiaire qui doit exister depuis un paquet d'années, j'imagine. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont un peu bougé, compte tenu de l'ouverture à la concurrence de ce marché global de l'assurance de prêt? Est-ce que vous avez le sentiment que les banques
non,
sont
parce
encore
que la bataille,
plus vilaines?
La bataille, elle ne se fait pas sur le conseil. La bataille, elle se fait sur les prix. Et aujourd'hui, on remplace un prix par un autre. En l'occurrence... c'est là-dessus que nous, on travaille avec le réseau Nous Assurons. On essaye d'éduquer les courtiers à aller un peu plus loin, à connaître les clients. Parce que la problématique du client et la bonne assurance, c'est pas qu'une question de prix. Souvent, on raisonne par rapport au prix et aux garanties. Là, maintenant, avec l'équivalence des garanties. Avec l'équivalence des garanties, le problème, il est réglé.
Quand vous dites mieux connaître le client, c'est-à-dire qu'en tant qu'assureur, vous essayez de récupérer des infos pour être plus précis.
Mais on se doit. On se doit. Ça fait partie de ce qu'on appelle du recueil des besoins.
Ouais. Par exemple, la loi Lemoine qui abandonne le questionnaire de santé pour les prêts de moins de 200 000 euros. Là, en tant qu'assureur, vous n'avez aucune visibilité.
Génial. Ça ne nous concerne pas. Nous, on est là pour apporter un service.
Mais se renseigner sur le client. Est-ce que
moi, je ne suis pas médecin. Moi, me renseigner sur le client, c'est me renseigner sur l'adéquation entre sa situation patrimoniale, familiale et le produit d'assurance décès que je lui propose.
Mais donc, mais juste pour revenir sur cette nécessité d'enquêter un peu sur le profil des emprunteurs, moi, je reviens là-dessus, c'est est-ce que les banques, aujourd'hui, quand on nous promet depuis des années une espèce d'énorme coup de pied dans la fourmilière avec des assureurs alternatifs qui vont récupérer plein de parts de marché, etc. Mmh. Est-ce que vous sentez que les banques, elles sont encore plus machiavéliques pour faire signer tout et n'importe quoi? Enfin, est-ce que vous, chez Nous Assurons, vous récupérez des clients qui vous disent « Mais attendez, là, c'est n'importe quoi, on me fait signer je sais pas quoi, je peux plus changer, je me retrouve captif. »
Ah mais ça, c'est tout le temps n'importe
mais
quoi.
Pas
je veux dire, mais pas simplement parce que le conseiller bancaire, il est formé en 3 minutes à une assurance de prêt. Il sait pas les implications, il a pas forcément une connaissance de l'environnement fiscal, financier et patrimonial du client, même si c'est lui qui a les comptes bancaires. C'est catastrophique.
Ce que disent les courtiers, ce que disaient les courtiers au début de la loi Lemoine, c'est que la suppression du questionnaire de santé, elle pénalise les courtiers parce que les banques, elles ont quand même à travers les comptes, même si elles ne sont pas censées le faire, le conseiller bancaire connaît son client. Si le client a régulièrement des factures de pharmacie, etc., arrive à cerner un petit peu le profil et savoir s'il y a un problème.
Nous, le courtier, il est là pour représenter le client. On n'est pas là pour représenter une compagnie d'assurance. Donc nous, à partir du moment où on a une règle qui nous permet d'assurer quelqu'un jusqu'à 200 000 euros sans questionnaire de santé...
Oui, parce qu'on n'est pas l'assureur. Vous êtes...
On est là pour ouais. Servir le client.
Un dernier point, on va parler juste après la pause des seniors au-delà de 50 ans. On n'a plus vraiment le même profil d'investisseur. C'est plus difficile d'obtenir un crédit immobilier. C'est aussi extrêmement difficile lorsqu'on est senior d'obtenir une assurance.
Oui, c'est plus difficile. Simplement parce que souvent, on a des problèmes de santé. Ça commence,
mais en tout cas. C'est plus cher ou c'est parfois impossible?
C'est les deux. Ça peut être les deux. Ce sera plus cher.
Ouais, et on peut l'entendre.
Ouais, ça sera plus cher.
Le risque est plus important.
Le risque est plus important. Et puis, on va être plus sélectif. Les examens sont plus étendus. Et puis souvent, quand on est sur la dernière ou l'avant-dernière acquisition, on met des gros tickets. Du coup, on a des engagements financiers qui sont plus importants. Et du coup, des besoins d'assurance sont plus élevés. Mmh. Alors pour ça, je peux citer un partenaire qui a fait un truc génial. C'est une enveloppe d'assurabilité. Alors, c'est destiné aux entreprises, principalement. Mais vous faites un questionnaire d'état de santé à 40-45 ans. Et pendant les 5 années qui suivent, vous avez une enveloppe. Alors, vous la définissez au départ. Ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, ça peut être 5 millions, en fonction de votre profil d'entreprise. Et au moins, vous tirez au fur et à mesure, sans repasser d'examens médicaux, pendant 5 ans, sur cette enveloppe qui est à votre disposition d'assurabilité.
Un sujet qu'on a souvent abordé sur ce plateau, mais c'est un peu la double peine. Lorsqu'on vieillit, je suis désolé d'insister, puisqu'on va en parler juste après la pause, mais lorsqu'on vieillit et qu'on a une pathologie qui peut être variée, je ne sais pas, le diabète, il y a à la fois une prime qui est plus importante, parfois 2-3 fois plus importante que la prime de base, et une exclusion. Est-ce que ce n'est pas la double peine pour la personne qui emprunte de devoir payer plus cher et en plus de subir une exclusion? On a envie de dire intuitivement, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois.
Alors, oui, on a envie de le dire. Parfois, c'est les deux à la fois. Mais les assureurs reviennent quand même vers plus de tolérance, et notamment quand les situations de santé évoluent. Donc, ce n'est pas parce qu'à un temps T, on a été pris avec une surprime à 100%, que si sa situation de santé s'améliore et revient dans des paramètres normaux, on n'a pas intérêt à re-solliciter un assureur. Ça peut être le même, mais ça peut être un autre assureur. Et ça, le courtier, il est là pour vous accompagner dans cette démarche-là.
Oui, puis avec l'espérance de vie qui s'allonge, il y a quand même...
Et puis la médecine, elle avance. Du coup, le regard de l'assureur, il avance aussi sur les maladies et sur la tarification de la surprime.
Trois choses à retenir. Attention à la clause bénéficiaire. N'hésitez pas à dire non à votre banquier et consultez un courtier, c'est ça?
Exactement.
Apprenez à dire non.
Et Stéphane, vous pouvez venir chez Nous Assurons avec plaisir.
Ça ne me concernait pas, je n'ai pas de diabète.
Les livres de développement personnel par Stéphane Pedrazzi, j'adore.
Allez, merci beaucoup. Merci à Marie Cœur de Roy, journaliste IMO de BFM Business. Et merci à vous, Jérôme Robin, fondateur de Nous Assurons, réseau de 110 courtiers en assurance, notamment emprunteurs, mais pas que.
Non, assurance de risque d'entreprise.
Voilà.